Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La CEDEAO s'est réjouie des garanties données par les autorités de la transition à l'issue de sa visite de 2 jours au Mali. Le président colonel Assimi Goïta a promis la tenue de la présidentielle à la date indiquée, soit le 27 février 2022. Le chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga a quant à lui annoncé la formation de son gouvernement d'ici le dimanche prochain. Ces différentes promesses sont-elles rassurantes? Pour en parler, nos invités sont Madame Mariko Okorotumutera, socio-économiste et présidente de l'ONG FEDEV, Dr Ali Tunkara, sociologue et chercheur au cabinet CE3S. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
ONG Femmes et Développement, FEDEV. Avant de rentrer dans le vif de ce débat, je vous invite à écouter la réaction de la commission de la CEDEAO, M. Kassi Brou, à la fin de la visite de 2 jours au Mali.
Le médiateur a aussi réitéré l'engagement de la CEDEAO à soutenir et accompagner la transition, puisque ça a été un des points qui a été évoqué lors du sommet d'Accra le 31 mai dernier. Et également, nous avons réitéré l'appel des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à l'ensemble des partenaires, partenaires multilatéraux et partenaires bilatéraux, à accompagner le Mali dans ce processus de transition. La CEDEAO, à travers la commission, reste totalement disponible, et nous l'avons réaffirmé également, pour soutenir et accompagner le Mali. L'objectif qui est celui du chef de la transition, du président de la transition, du Premier ministre et également de la CEDEAO, c'est que le Mali retrouve rapidement son retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc,
c'était là la réaction de Jean-Claude Kassi Brou, membre de la commission de la CEDEAO à l'issue de la visite de 2 jours au Mali. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration? Je commence par vous, Madame Mariko Okorotumutera.
Ah, merci beaucoup. C'est un discours rassurant pour le peuple malien, peuple qui pétrifié par les possibilités de sanctions comme nous en avons connu en 2012. Mais quelque part aussi, je me dis, est-ce que la CEDEAO avait tout à fait le choix? Parce qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Il y a eu un coup d'État récemment au Tchad. Il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a eu aucune mesure qui condamne les militaires. Au contraire, il y a eu des discours de tendance à dire qu'il faut soutenir le pays à se relever. Et donc, il n'y a pas de raison que le Mali ne puisse pas bénéficier des mêmes largesses. Encore qu'on nous a suspendus de toutes les instances de la CEDEAO, nous continuons à payer nos taxes, mais nous ne délibérons pas. Donc ça, c'est aussi une sanction assez grave. Mais c'est déjà une bonne chose de savoir que, pour les Maliens, de savoir qu'il n'y aura pas de sanctions, et concrètement, qu'il n'y aura pas de fermeture, qu'il n'y aura pas d'interdiction de voyager, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est déjà une bonne chose, ces discours qui nous laissent entendre que les autorités actuelles ont respecté, en tout cas, tout ce qui était convenu lors du premier passage de la CEDEAO, lors des événements du 24 mai.
Ali Tunkara, selon vous, ce discours rassure également?
Alors, du point de vue annonciation, du point de vue, ce que je qualifierais même émotionnel, le discours est rassurant. Mais du point de vue d'utilité, d'efficacité et surtout de pertinence, il ne l'est pas. Pourquoi? Alors, quand vous interrogez aujourd'hui la situation sociopolitique de l'électeur dans laquelle se trouve le Mali, moi je pense qu'il serait extrêmement important de s'inscrire dans la durée, non dans le sensationnel. C'est vrai, la tenue des élections d'ici à 9 mois, au regard des enjeux auxquels le Mali fait l'objet, au regard du contenu de la charte, même si la charte n'a jamais été respectée par les officiers militaires eux-mêmes, au regard de ce que les Maliens ont en termes d'attente sur le plan sécuritaire, ce que les Maliens ont vis-à-vis des textes relatifs à la loi fondamentale des élections, Tout cela me laisse entendre qu'effectivement, une telle satisfaction à l'issue du communiqué de la CEDEAO est une satisfaction non seulement passagère, mais peut nourrir du contexte, peut nourrir des circonstances qui caractérisent le Mali. Pour faire simple, il faut d'abord s'interroger, est-ce que ce sont les élections qui constituent des solutions pour ces questions de sécurité, pour ces questions de sécurité, j'allais dire, pour ces questions des réformes institutionnelles, même administratives, est-ce que nous ne sommes pas dans cette situation parce que des élections ont été contestées, il faut quand même le rappeler, notamment législatives. Est-ce que la venue du président Keïta par les urnes a-t-elle permis aux Maliens d'avoir des réponses durables à l'offre et à la demande de sécurité? Est-ce que le deuxième mandat du président Keïta a permis aux Maliens justement d'apporter des solutions à toutes ces demandes de sociétales exprimées ça et là? Je pense que, sincèrement, moi, en toute objectivité, tenir les élections dans l'agenda initialement communiqué, c'est déplacer le centre de gravité des tensions et non d'apporter des solutions durables à toutes ces souffrances auxquelles les Maliens dites, les Maliens dits des régions, les régions dites nord du pays, ainsi que ceux également des régions dites centre du pays font l'objet. Parce que, rappelons quand même aujourd'hui, que tenir les élections dans le contexte malien, même l'élection présidentielle à elle seule, c'est dire qu'attention, nous allons juste envoyer les éléments de forte défense et de sécurité du Mali et quelques éléments de la force MINUSMA, la force onusienne, quelques éléments aussi de la force Barkhane, pour sécuriser une bonne partie des régions de Mopti, de Ségou, de Gao, de Kidal, juste pour la tenue d'élections. Le lendemain, les populations sont laissées pour compte, parce qu'on veut juste aller aux élections. Les demandes en lien avec la sécurité, on s'en moque. Les demandes en lien avec une justice équitable, on s'en manque. Je pense qu'il faut vraiment sortir du raccourci. Sinon, je suis persuadé qu'au terme des élections, d'autres coups d'État ne sont pas possibles, mais auront surtout lieu.
Madame Mariko, concrètement, quand la CEDEAO appelle les partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner le Mali dans le processus de transition, qu'est-ce que cela signifie?
Alors, cela signifie que les partenaires traditionnels du Mali, qui l'accompagnent depuis fort longtemps, qui sont dans le secteur du développement et le secteur de l'humanitaire, qui sont dans la coopération au développement de façon générale, que ceux-ci reprennent, que ces partenaires reprennent la coopération, même si ça n'avait pas été suspendu. On a eu écho, par exemple, je pense que c'est l'OIM. L'OIM avait annoncé officiellement la rupture de toutes les relations avec le pays. Donc, ce genre de déclaration, en fait, c'est pour inciter les partenaires à continuer le partenariat. Parce que même si, en réalité, beaucoup de partenaires ne l'ont pas annoncé officiellement, et leur retrait ou bien leur volonté d'arrêter tout partenariat avec le pays, ils étaient dans l'entente. Ils étaient dans l'entente de savoir quelle va être la suite, qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a un élément qui rentre, de mon point de vue, en ligne de compte. Ça, c'est la réaction des populations. On a beau être partenaire au développement, on a beau être institution, etc., etc. Je pense que l'élément fondamental, c'est le peuple malien. Quand il y a eu l'événement, quelle a été la réaction du peuple malien? Le peuple malien a voulu une rupture le 18 août parce qu'il y avait des problèmes. Ces facteurs de mer, nous l'avons entendu par les acteurs principaux. Les mêmes facteurs ont fait que le 24 mai, il y a eu une rupture. Maintenant, vu que les partenaires au développement sont présents dans le pays, ils sont témoins de ce qui se passe aussi. Ils peuvent fermer les yeux sur les choses, ils peuvent décider de se taire, mais la réalité, c'est que si c'est visible, les facteurs qui ont conduit à ces événements-là, il l'a tantôt dit, c'est connu par tous. On peut ne pas dénoncer, mais on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Le problème de sécurité, par exemple, qu'il a posé, c'est un problème récurrent depuis combien d'années? Mais aujourd'hui, en plus des acteurs que lui a cités, il y a des nouveaux acteurs de violence. Ces nouveaux acteurs de violence, c'est qui? C'est des jeunes qui se sont constitués en bande et qui, aujourd'hui, font des attaques. Et ils sont très bien organisés. Les attaques entre Kona et Mopti, récemment, ma mission était, on a enlevé une délégation. C'était pas les groupes armés, c'était des jeunes, des bandits qui se sont mis ensemble, qui ont compris que le pays aujourd'hui est au bord du gouffre. Donc chacun profite pour faire ce qu'il veut. Les attaques à Bougouni, il y a eu des preuves, les attaques à Koutiala, les attaques à San, les attaques à Kimparana, etc. Donc ces nouveaux acteurs de violence-là, tout ça, c'est autant nous en sommes conscients, autant les partenaires le savent. Moi, en tant que organisation de la société civile, il y a des rapports qui sont déposés. Normalement, nos rapports sont déposés au niveau de l'administration territoriale. En même temps que les organisations internationales déposent leurs rapports au niveau du système d'information des Nations Unies. Donc, si l'État exploite les rapports, l'État peut anticiper certaines choses. Mais tel n'est pas le cas. Donc, la situation du Mali, de façon générale, il y a touché aussi la question de l'élection. La question de l'élection... Il a posé la question, est-ce que les élections, est-ce que c'est la solution au problème? Il a raison de poser le problème. Nous mettons combien de milliards dans les élections? Pour quel résultat? Des élections dont les résultats sont connus à l'avance. Donc ça, c'est un grand challenge. Maintenant, moi, mon problème, en fait, quand vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on se satisfait de la déclaration de la CEDEAO? Oui, sur le coup, parce que c'est rassurant. Mais je ne serais pas d'accord, moi, que Assimi ou que Choguel disent que non, on ne peut pas tenir l'élection à la date. Non, c'est les événements. C'est le cours des événements qui va imposer, oui ou non, le respect de la date. Parce que la question n'est pas d'organiser les élections en février, coûte que coûte. La question, le challenge qui attend M. Maïga, Premier ministre, c'est vraiment de créer, de faire en sorte que de créer les conditions d'un changement dans le pays. Et ça, ce n'est pas rien.
Alors, je vous prends au mot. Les conditions d'un changement est un challenge. Oui. Et s'agissant encore des partenaires, on sait que le Mali est suspendu de plusieurs organisations, notamment l'Union africaine, la francophonie, et des pays comme la France également sont également... en froid avec le pays. Est-ce que cette décision de la CEDEAO pourrait les amener à revoir leurs positions vis-à-vis du Mali?
Je pense que c'est vrai que même si vous suivez avec une attention particulière l'argumentaire qui avait été soutenu par ces partis que vous venez d'énumérer, l'argumentaire consiste à dire qu'effectivement nous sommes dans on s'inscrit dans la même lignée que les institutions sous-régionales, en l'occurrence la CEDEAO. Donc effectivement, si la CEDEAO venait à revoir sa copie, il n'y a rien d'étonnant que la France, l'organisation de la francophonie et d'autres instances effectivement revoient aussi la leur à leur tour. Mais maintenant, je pense qu'il faut que les Maliens soient lucides avec eux-mêmes. Est-ce que il est de la responsabilité de la France ou de la francophonie ou de la CEDEAO d'apporter des réponses aux demandes formulées par les Maliens? Je pense que non. À mon entendement, il faut vraiment rester dans ce que j'appellerais dans l'utilité. En quoi la tenue des élections est-elle un gage de sortie de cette crise sociopolitique ou de la sortie de toutes ces souffrances auxquelles les Maliens connaissent? Toute objectivité, je ne vois pas. Donc, de ce fait, je comprends, Mariko, le fait qu'effectivement, il faut quand même avoir des finalités recherchées quand on est dans une équipe gouvernementale et de suivre le cours des événements. Mais objectivement, ce qui manque cruellement à ces autorités de la transition, c'est l'origine. Ils n'est vraiment pas défini. Est-ce que sommes-nous dans la charte ou de la Constitution? Cette question, franchement, il est de la responsabilité du président Goïta aussi d'apporter des éléments de réponse. Si nous sommes conformes à l'esprit de la charte, il est quand même prévu un certain nombre de réformes à amorcer pendant cette période de la transition. S'agissant des réformes administratives, en passant par même la révision constitutionnelle, est-ce que, en raison de 9 mois, au regard des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le Mali, les autorités de la transition vont-elles renoncer à ces réformes? Si oui, c'est lié de le dire aux Maliens. Il est aussi de la responsabilité aujourd'hui de ces autorités de la transition de dire attention, Lorsque le général Aya Sanogo a fait son coup d'État avec ses lieutenants, la même communauté internationale, la même CEDEAO, avait résumé toutes les difficultés des Maliens à la seule tenue des élections. Sincèrement, le récent coup d'État m'a trouvé à l'intérieur du pays, notamment dans la région du nord du pays. Les gens se moquent même de ce qui se passe à Bamako. Il y en a qui étaient venus vers moi, me demandant, il semblerait que chez vous, encore à Bamako, il y a eu un coup d'État. Ouais, donc c'est pour vous dire que lorsque sommes-nous en charge d'animer la vie publique, il est de la responsabilité aujourd'hui de cette autorité d'être touché de ces attaques qui se passent à Intilit, de ces attaques qui se passent à Ansongo, de ces attaques qui se passent à Sumpi, à Boni. Mais je comprendrais difficilement, dans une telle recrudescence d'attaques terroristes, qu'on demande à ces populations, elles sont quand même majoritaires, c'est pratiquement deux tiers du territoire aujourd'hui qui échapperait à tout contrôle étatique officiel. Donc comment allez-vous tenir des élections du moment où l'État ne présente que dans les sens urbains? À 20 km de la région de Mopti, l'État n'y est pas. À 20 km déjà de la ville de Gao, l'État est absent. De même pour Tombouctou. Y compris les différents aéroports à l'intérieur du pays sont quand même détenus par les forces étrangères, en particulier la force Barkhane française. Je pense qu'il faut qu'on dise ces vérités aux Maliens. Donc vous, Maliens des centres urbains, en particulier Bamako, vous ne pensez qu'à l'accès au pouvoir et à son exercice. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette, ce que j'appellerais, de simplification de la vie d'une nation. Il est très absurde aujourd'hui, en tant qu'officier supérieur à la tête du pays, de parler des élections au même moment, une bonne partie du territoire échappe à tout contrôle officiel. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Maliens vont choquer. Je demanderai même, il faut un minimum de 5 ans si l'on veut tenir des élections pour apporter réponse aux souffrances des Maliens. Il faut au moins 5 ans pour amorcer non seulement les grandes réformes et jeter les bases.
Une prolongation de la durée de la transition.
Une prolongation à des reprises même. Voilà. La durée de la transition. Pour jeter justement les bases fondamentales d'un pays digne de ce nom. Une fois que cela est fait, il est fort probable qu'on soit à l'abri de possibles coups d'État. Mais il faut que les gens comprennent une chose. En quoi la tenue des élections générales permettrait aux populations de Bandiagara d'accéder à l'eau potable? En quoi la tenue des élections permettrait de mettre un terme aux exactions dont les hommes de Hamadou Koufa font l'objet? En quoi la tenue des élections permettrait au Mali d'appliquer de façon effective et réelle l'accord pour la paix et la réconciliation? Je pense que, sincèrement, dans le contexte humain, les gens sont dans le déni, en fait. Il faut que les gens s'introduisent à quoi sert finalement la tenue des élections. Une fois que cette question est posée, on va se rendre compte que, parce qu'effectivement, on a des hommes et des femmes qui veulent juste accéder au pouvoir et se moquent pas mal des souffrances des Maliens.
Vous l'avez tantôt écorché lors de votre précédente intervention. Oui. Est-ce que il y a suffisamment d'indices fiables qui puissent faire que la présidentielle puisse tenir à la date indiquée, notamment le 27 février 2022? Ou bien vous êtes d'avis qu'il faut également prolonger la durée de la transition?
Écoutez-moi, c'est l'approche qui me dérange. L'approche me dérange. Si a priori, on commence par dire que ce n'est pas possible, il faut aller à 5 ans. Ça me dérange. Par contre, moi, je comprends parfaitement bien que les problèmes du Mali ne sont pas liés simplement à l'organisation des élections. Mais une bonne organisation d'élections démocratiques peut résoudre en partie des problèmes du Mali, parce qu'en ce moment, ça veut dire que c'est un système de gouvernance transparent avec des hommes élus par le peuple pour les représenter. Donc, en ce moment, je suis convaincue qu'une élection transparente, organisée de la manière la plus transparente possible, qui, en respectant le choix du peuple malien, peut résoudre en partie les problèmes du Mali et des Maliens. Maintenant, tous les problèmes ne sont pas liés à l'élection, c'est clair. Et quand on a... Déjà, j'ai commencé par dire que les élections au Mali, c'est beaucoup de milliards et peu de résultats. des résultats, sinon des résultats connus à l'avance. Ce sont des élections comme ça qui peuvent conduire à des séries de coups d'État. Mais pas quand des élections sont organisées de façon démocratique dans le strict respect du choix du peuple malien. À ce moment, moi, je me dis, et le président, le chef de la transition, le premier ministre, ils ont des défis qui les attendent. J'ai attendu le chef de la transition dire qu'il désiste des 2/3 de ses fonds de souveraineté, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Mais la priorité des priorités, s'il arrivait à le faire, dans les 30 jours qui suivent, l'accès des populations, l'ensemble des populations, notamment des populations les plus vulnérables, aux produits alimentaires de première nécessité. Ça, c'est la première des choses. Depuis le mois de carême jusqu'à maintenant, nous achetons le kilo de la viande à combien? En tout cas, vers chez nous, c'est 3 000 francs, puisqu'il n'y a pas de respect de marché. Donc, je ne sais pas si c'est
effectivement, partout. Il y a une hausse.
Donc, ça, c'est 3 000 francs. Quel est le nombre de foyers, de ménages au Mali qui peut acheter le quart de kilo et pouvoir s'approvisionner pour le reste? Ça, c'est un gros problème. Donc, si ce problème, par exemple, n'est pas géré, ça ne servira à rien d'aller aux élections au mois de février. C'est pourquoi je dis que c'est l'approche qui me dérange. Il faudrait que le président et son premier ministre fassent, et le gouvernement qui va être mis en place, fassent la preuve que vraiment ils sont dans la recherche de solutions pour un bien-être du peuple malien. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est par exemple, ça c'est de bonne foi, la réduction du train de vie, par exemple, de l'État. Ça, c'est des signaux. Si des signaux comme ça sont lancés, le peuple peut avoir confiance et estimer que effectivement, si nous nous entêtons à organiser des élections d'ici 9 mois, nous allons créer plus de problèmes que d'en résoudre. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, le nouveau projet de loi, juste avant le 18 août, qui, je pense, qui a mis la caution pour les présidentielles à 50 millions. Vous voyez, ça, c'est, par exemple, c'est un projet de loi pour que le gouvernement et les chefs de la transition fassent preuve au peuple malien qu'ils sont de bonne foi. Ça, c'est de retirer purement et simplement ce projet de loi. Parce que ce projet de loi a eu comme conséquence qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires, les gros commerçants estiment que, puisque c'est eux les bailleurs des partis politiques, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas se présenter comme président de la République, devenir les députés, devenir les ministres, etc. etc.
Ça, tout se résume peut-être à une question d'argent.
Justement, en ce moment, parce que la politique, comme en Afrique, vous le savez, vous avez beau être de bonne foi. Les gens ont beau apprécier votre engagement. Allez-y voir. Au moment des élections, les résultats qui sortent. Ce n'est pas toujours de la faute des populations parce qu'il y a des bourrages durs. Ce n'est pas toujours la faute des populations parce que les résultats sont connus à l'avance. Mais c'est aussi un peu la faute des populations parce que si vous sentez que ce ne sont pas, comme ce qui s'est passé les élections législatives passées qui nous ont conduit à tout ça, si vous sentez que ce n'est pas votre choix qui a été rendu officiel, vous pouvez protester. Donc, cette histoire de 50 millions a fait que les hommes d'affaires sont devenus des hommes politiques. Je me rappelle, mon bourangais Ali Noum Diallo l'avait dit, je l'ai suivi une fois, je ne sais plus où, il disait, mais j'avais prévenu que si jamais vous continuez à augmenter les avoirs des députés à l'Assemblée nationale, vous finirez par avoir dans cette Assemblée que des commerçants, que des hommes d'affaires, etc., etc. Tout sauf les hommes qui y doivent être, c'est-à-dire les hommes politiques. Chacun a un rôle à jouer. L'homme politique, on a beau faire des critiques, l'homme politique a son rôle à jouer. La société civile a son rôle à jouer. Les hommes d'affaires, les commerçants ont leur rôle à jouer. Chacun devrait jouer convenablement son rôle. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit il y a quelques années, C'est ce qui se manifeste aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, il y a tout le monde. Mais mieux que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ils veulent la présidence de la République. Donc ça, c'est un aspect. Donc ça, c'est un projet de loi. Les Maliens s'attendent à des changements. Ça fait partie des changements auxquels les gens s'attendent. En plus, il y a également l'inflation. Ça fait partie de la réduction du coût de l'État. L'inflation des institutions qui se chevauchent. pour très peu de résultats ou des résultats très timides. Donc ça, c'est des, de mon point de vue, ça, c'est des éléments. Si le chef de la transition et le Premier ministre s'attaquent à ces problèmes-là, et que d'ici quelques mois, le peuple malien effectivement réalise en toute conscience qu'ils sont en train de travailler, ils sont de bonne foi. Mais ce n'est pas une parole d'évangile, l'organisation des élections en février 2022. Mais il ne s'agit pas non plus de rejeter ça d'un revers de la main en disant qu'il faut, il faut 3, il faut 4, il faut 5 ans. Non. Il y a le risque, je crois que le Malien n'est plus prêt à tolérer les risques jusqu'à un certain niveau. Les gens, ils anticipent. Dès qu'ils sentent qu'il y a des problèmes, ils anticipent. Et donc, ça aussi, ça peut amener des situations. Dire aujourd'hui aux Maliens que non, la transition va aller au-delà de 9 mois, oui, peut-être que ça peut... Il y a les arguments pour soutenir. Mais ce n'est pas évident. Les Maliens, ils sont capables tout de suite de dire que non, pourquoi vous commencez par ça? Il y a les urgences. Commencez, comme vous l'avez dit vous-même, les élections, c'est pas forcément la plaque tournante de la résolution de tous les problèmes du pays. Et donc, pourquoi vous commencez par ça? Commencez par le problème. Si vous commencez par les problèmes, nous sommes là, on vous suit. Il y a le contrôle citoyen de l'action publique. Et donc, si nous sentons vraiment que vous êtes engagés, il n'y a pas de raison, ce n'est pas une parole d'évangile en février 2022. Surtout que ce n'est pas les Maliens, je le répète, ce n'est pas les Maliens qui ont décidé d'organiser les élections en février 2022. Ce n'est pas les Maliens qui l'ont décidé.
Mais la date avait été donnée sous le gouvernement Mokhtar Wane.
Oui, quel qu'en soit. Quel qu'en soit, on lui a donné des dates, il a accepté. Est-ce que on a demandé aux Maliens, vous voulez les présidentielles quand? Est-ce que vous voulez que la transition aille, etc., etc. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas une parole d'évangile. Donc, ça veut dire que c'est changeable, mais à condition.
Alors, je vous prends au mot, c'est changeable, mais il faudrait que des préalables soient garantis.
Eh bien sûr.
Docteur Ali Tunkara, vous êtes d'accord pour une prolongation de la transition, voire même jusqu'à 5 ans, mais on n'en est pas là. Si on doit organiser cette élection, c'est-à-dire d'après les déclarations faites par la CEDEAO, la transition s'est engagée à organiser ces élections dans moins de 8 mois ou 9 mois à peu près. Est-ce que cette date même, c'est possible? Et si c'est possible, à quoi cette transition doit s'atteler d'abord?
Alors, je pense que je réitère l'utilité d'une action, en fait, et non son aspect sensationnel. Au bout du compte, on gouverne qui? Et les élections se tiennent pourquoi? Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions. Si vous avez bien suivi Mme Terra, elle reconnaît effectivement l'urgence d'aller vers un ordre dit constitutionnel. Mais n'oublions pas quand même que les élections se tiennent quand même sur un territoire. Vous, les Maliens, vous oubliez que vous n'avez pas de territoire. Ne résumez pas le Mali aux centres urbains.
Donc il faut la sécurité d'abord.
Mais c'est même... indéniable.
Est-ce que cette transition peut garantir cette sécurité en moins de 9 mois?
D'où l'urgence d'aller au moins à 5 ans. Je vais même essayer de revoir à la hausse les 5 années initialement annoncées. En fait, moi, je pense que ce qui a beaucoup manqué déjà à cette transition, c'est la clarté des finalités recherchées. Parce que des Maliens ont été entendus lors des assises au lendemain du coup d'État du mois d'août, lesquels Maliens avaient quand même formulé des recommandations qui ont été sérieusement tenues à l'écart par les autorités militaires. Donc il me paraît urgent aujourd'hui que les officiers supérieurs au pouvoir disent ce qu'ils ont comme agenda. Parce que de toute façon, jusqu'ici, nous, on a un problème de lecture. Faut-il se référer à la charte ou faut-il se référer à la Constitution ou faut-il se référer à des actions en géométrie variable qui viennent de se produire, par exemple, le mois passé. Donc je pense que aujourd'hui, le Mali se trouve au cœur d'un vide, en fait. Ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays sérieux. Le référentiel dans le contexte malien, il est quasi absent. Ni Assimi Goïta, ni le docteur Maïga ne seraient dans un référentiel clair. Donc, à mon entendement, le préalable, ce sera d'abord qu'on dise aux Maliens ce qu'on veut faire et sur quoi on se base. Et là, ça pose problème dans le contexte malien aujourd'hui. Maintenant, s'il faut tenir les élections, ou peut-être l'élection présidentielle, dans le temps imparti, c'est une chose. On va la tenir, cette élection présidentielle, permettre à un politique d'accéder au pouvoir, mais tout en acceptant que on est peu soucié aujourd'hui du sort du peuple malien. C'est quand même important. Je comprends aisément l'apport de la CEDEAO dans le cadre du retour à une paix durable, de même aussi celui de la France à travers la force Barkhane française. Mais au bout du tunnel, nous devons nous continuer toujours à nous demander les élections sont organisées pour qui? Sur quel territoire? Pour quelle sécurité? Qui va les sécuriser? Est-ce que, d'ailleurs, c'est important ce que madame dit à propos du coût de la viande, ce que les autorités ne disent pas aux gens. Et tous ces animaux qui quittent la partie du centre du pays, effectivement, les animaux sont enlevés vers Luanda, vers Boni. Donc on n'avait pas accédé à ces animaux, justement, pour des raisons liées à l'insécurité. Justement.
Alors, une élection à la date indiquée pourrait engendrer quoi pour le pays?
Une élection à la date indiquée va engendrer une multitude de coups d'État. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être un charlatan. Parce que quand on va tenir les élections, à titre d'exemple, dans 9 mois, effectivement, la probabilité très forte dans un an de se retrouver dans cette même situation aujourd'hui, dans 2 ans, un 6e coup d'État, dans 8 ans, un 1e coup d'État. Donc, c'est pour vous dire que si les fondamentaux d'un État ne sont pas clairement jetés, clairement structurés, et je pense qu'il faut vraiment oublier les élections. À mon entendement, les élections doivent être même les derniers recours pour ces autorités de la transition. Parce que n'oublions pas quand même que le président Keïta avait été élu, il ne faut pas l'oublier. Le président Atete avait été élu, donc ce n'est pas un problème d'élection. Et d'ailleurs, un autre problème s'agissant de ces élections, beaucoup de Maliens ne se reconnaissent pas justement dans le mode scrutin déjà. Comment revoir tout cela, le fichier qui va servir même comme base d'élection? Il faut le réviser. Et l'organe unique dont les partis ou les politiques en parlent, il faut le mettre en place. Des hommes et des femmes qui vont obéir à l'orthodoxie et à la morale, il faut le désigner. Et je suis persuadé que l'équipe gouvernementale qui va être mise en place, il risquerait d'être une équipe plutôt inscrite dans des accointances parce qu'il serait proche du membre du COS, proche du colonel Goïta, proche du shérif de Nioro. Paf, je mets tout le membre du gouvernement. Vous voyez, donc, lorsqu'un pays traverse une situation aussi délétère et que les gens succombent à des raccourcis sans pour autant s'interroger sur la capacité, sur la légitimité, la pertinence des acteurs, le Mali est loin d'arriver au bout du tunnel, malheureusement.
Madame Mariko Korotoum, vous partagez cet avis qu'une élection à la date indiquée pourrait nous ramener à la même situation que nous vivions actuellement?
Moi, je pense que le contraire pourrait se passer aussi. S'entêter à ne pas rester dans une logique acceptée par tous peut conduire effectivement à un autre coup d'État. C'est pas impossible. Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est que les chefs de la transition, le Premier ministre et son gouvernement, doivent faire montre d'une capacité d'amener le Mali vers un changement profond. Tout le reste vient après. Tout le reste vient après. C'est pas le sensationnel. C'est-à-dire que, vous l'avez dit vous-même, on va opter tout de suite pour une transition de 5 ans. Alors les clans vont commencer à se constituer. On a vu, ça se compose, ça se décompose, ça se recompose, etc. etc. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, les Maliens, tant que société civile, nous avons besoin aujourd'hui de quelqu'un ou d'une équipe qui nous démontre qu'il a la capacité de nous amener vers cette finalité dont vous parlez, donc vers un changement profond. Même si ce changement est réclamé par tous, au bout du compte, ça va aussi poser des problèmes. Mais ce qui est clair, c'est que de mon point de vue, ce n'est pas une priorité aujourd'hui de discuter de oui les élections en février ou non les élections en février. Ce qui est une priorité de mon point de vue, c'est cette équipe gouvernementale qui va être mise en place. Avec les voilà, qui nous fasse la preuve.
Mais on remarque également que ça soit la CEDEAO ou encore Assimi Goïta dans sa déclaration, même lors de sa prestation de serment, qu'on se focalise de plus en plus sur la tenue de la présidentielle en oubliant les autres élections annoncées. Car la transition avant les événements du coup d'État avait d'abord annoncé les référendaires pour le 31 octobre, à peu près 7 élections à venir.
Effectivement, mais parce que là, on estime qu'une fois les élections présidentielles organisées, un chef d'État installé, il lui revient. En ce moment, la gouvernance est bien assise. Il lui revient à son tour d'organiser des élections saines. Moi, je pense que ça, ce n'est pas ce qui me pose problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment, est-ce que les hommes et les femmes que M. Meïga est le chef de la transition.
Alors nous allons en parler. Est-ce que pour vous, le duo Assimi Goïta, Choguel Kokala Meïga peut mener à bien cette transition?
Moi, je pense que Choguel, M. Meïga, M. le Premier ministre, a beaucoup de rôle à jouer. Je pense que tout dépendra, en tout cas à 90%, la réussite ou l'échec dépendra de ce qui va être son comportement. S'il est suffisamment, comme il est rusé, s'il est suffisamment modeste, s'il reste dans son boubou de modestie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en même temps, qu'il soit ferme, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça veut dire que des deux côtés, il y a problème. Des deux côtés, il y a problème. Puisque de l'autre côté, c'est des militaires, moi, en tant que société civile, j'estime que le terrain qu'ils connaissent le mieux, c'est le terrain militaire, c'est pas le terrain politique. Donc, de mon point de vue, l'échec ou la réussite va dépendre beaucoup de l'effort que fournira le nouveau Premier ministre et des hommes et des femmes qui vont être choisis pour composer le gouvernement et conduire le devenir de ces pays dans ces quelques mois-là.
Docteur Ali Tungara, que peuvent être les atouts de Choguel Kokala Meïga pour gérer cette transition-là?
Alors, deux atouts majeurs. Le premier, s'il veut rester Premier ministre jusqu'à la fin de la transition, peu importe la temporalité, c'est laisser les militaires se comporter comme bon le semble, parce que sinon ils vont l'amener à Kati. Ouais, les gens vont prendre pour quelqu'un de méchant. Non, parce qu'ils sont comme sérieux. Le président Guetta lui-même l'a dit clairement, on ne peut pas exclure des gens qui ont pris les armes contre un régime défunt et ne pas les reconduire dans l'équipe gouvernementale. Donc pour vous dire que peu importe que le colonel Camara soit compétent, il faut qu'il reste, sinon il va défaire Choguel. Oui, c'est quand même compliqué. Peu importe que celui de la sécurité intérieure, comment il s'appelle encore là, il faut qu'il reste dans le gouvernement, sinon il va défaire Choguel. Donc vous voyez, quand vous êtes dans une situation aussi compliquée, l'efficacité, elle est chaotique. Donc Choguel se maintient dans le... Enfin, sa conduite, la transition, va dépendre de sa souplesse vis-à-vis des hommes en armes, malheureusement. Deuxièmement, tout qu'il a, c'est de faire semblant d'écouter les militaires. Ouais, c'est quand même ça aussi, il est très fort, c'est un politique. Bon, il va faire semblant, ok, si Camara dit, j'aime pas la sécurité, je veux les affaires étrangères, ok, ne vous inquiétez pas, une fois que les élections seront organisées, je vais demander au nouveau président de vous maintenir aux affaires. Enfin, en gros, ça va être le faire valoir, malheureusement. Maintenant, pour être sûr avec la question, est-ce que l'on veut une équipe gouvernementale qui soit efficace et pertinente? Je pense que ces exigences, malheureusement, ne peuvent pas aller avec... Madame n'aime pas le sensationnel, mais ne peut pas aller avec les simplicités, justement. Parce que, en toute objectivité, si vous demandez aujourd'hui au sein de l'armée, n'y a-t-il pas d'autres officiers supérieurs qui peuvent remplir pleinement, efficacement les fonctions aujourd'hui qui sont confiées au colonel Camara et au colonel de la sécurité intérieure? Voilà. Donc je pense que, en toute objectivité, cette élite militaire, elle n'est pas forcément soucieuse du Mali. Si elle était soucieuse du Mali, le fait que deux éléments n'ont pas été membres du gouvernement, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui que ces mêmes éléments restent comme conseillers spéciaux au rang des ministres? On pouvait avoir ça comme possibilité.
Madame Maricou, il a parlé tantôt des atouts. Quelles peuvent être alors les contraintes sur pour Choguel pour gérer cette transition-là?
Je vais commencer, si vous permettez, par les atouts qu'il a annoncés. J'ai l'impression que ces militaires ont tiré les leçons des expériences des coups d'État qui sont passés. Vous voyez, à chaque fois que y a des événements, ils surprennent. Peut-être qu'ils ont des conseillers spéciaux et qui ont bien analysé tout ce qui s'est passé 2010-2012. Voilà, donc qui fait qu'ils arrivent à... Donc je ne pense pas honnêtement que le Premier ministre, en acceptant tout, même de façon que ça va marcher. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je crois que ça ne marchera pas, parce qu'ils sont sur les qui-vivent, ils sont très vigilants et ils vont absolument rien laisser passer. Moi, je pense que Choguel est un politique. Les militaires sont des militaires. C'est pas pareil, c'est pas la même chose, ils sont pas sur le même terrain. Ils sont sur le terrain de Choguel. Et je pense que l'atout de Choguel, si Choguel arrive justement à se faire accepter par la classe politique, tout en donnant la preuve aux Maliens qu'il est soucieux de leur bien-être. Je pense que c'est ça qui va être l'atout de Choguel.
Est-ce qu'il peut rencontrer des contraintes sur son chemin dans sa démarche?
Eh bien sûr. Je pense que le soir même où on a annoncé, c'était juste une annonce, je pense qu'il y a eu déjà des problèmes. Des départs ont été annoncés, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, Choguel, sa mission n'est pas facile.
Alors, on dit de Choguel que c'est un loup de la politique, d'aucuns le qualifierait même de vétéran. Dans la formation de son nouveau gouvernement qu'il annonce pour dimanche, d'ici dimanche prochain, on peut s'attendre à quoi?
Je pense que c'est le premier problème auquel, en tant que Premier ministre, il est confronté. Parce que je ne suis pas sûre qu'en tant que Premier ministre, que c'est lui qui va composer le gouvernement. Je n'en suis pas sûre. Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûre. Au cas où c'est lui qui a la latitude, on lui donne plein pouvoir de mettre le gouvernement en place. Oui, ça va, mais ce qu'il a dit, c'est tout à fait juste. Dans des périodes comme ça, quand on veut l'inclusivité, les conséquences de l'inclusivité, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a le risque qu'on retrouve dans un gouvernement, dans un pays en situation d'urgence, qui a besoin de compétences, de capacités techniques pour se mettre ensemble, analyser la situation et proposer des solutions de sortie de crise, on risque de se retrouver avec un gouvernement pour faire plaisir.
Alors, donc, l'inclusivité, un gouvernement juste pour faire plaisir, à quoi peut-on s'attendre dans la formation de ce gouvernement de Dr Choguel Kokalamayiga?
Alors, on va assister à une équipe gouvernementale sérieusement rythmée par des officiers supérieurs. Lesquels officiers supérieurs? Attention, ils ont des armes, donc ils vont être écoutés. Et dans le même temps, les mêmes infidences qui ont quand même caractérisé l'équipe précédentes de M. Wan vont continuer naturellement. Les influences religieuses, les influences également de certaines personnalités influentes de la société civile dans le contexte malien. Mais je pense que trois difficultés majeures quand même attendent Choguel. Première difficulté, l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation à la lecture des nombres importants des Maliens. Deuxième difficulté, faut-il amnistier ceux-là qui ont fait le coup d'État? Je suis sûr que le problème va se poser à la fin de la transition. Et troisième difficulté, faut-il revoir leurs galons, passés généraux? Ah, il est dans la merde. Je ne sais pas comment il va faire.
Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Deux questions pour clore ce débat. Est-ce qu'on peut s'attendre actuellement à une levée des sanctions de la part de la CEDEAO? Nous avons eu le satisfecit de la CEDEAO en partant. Peut-on s'attendre à une levée des sanctions, Madame Maricot?
Bon, personnellement, ces sanctions-là, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une histoire de forme. C'était une histoire.
Donc, il n'y a pas de sanctions.
C'était une histoire de forme parce que comment voulez-vous que entre deux pays, les deux pays sont en plus du Liptako Gourmand qui connaissent les mêmes problèmes, qui ont les mêmes difficultés, qui sont confrontés au même type de crise, au même type de problème. On ne condamne pas l'autre et puis on veut condamner l'autre. Bon, je pense que le Mali s'est retrouvé dans une situation malheureusement. C'est des concours de circonstances qui font que...
Docteur Ali Koukara, voilà. En cas de non-respect du délai de la transition, peut-on s'attendre à quoi? Est-ce qu'on va connaître pire que ce qu'on vit?
Bon, Choguel, il va être fort s'il venait à être maintenu par le justice supérieur, de demander à la CEDEAO, s'il vous plaît, accordez-nous 6 mois, 1 an, et nous allons tout faire, donner les engagements pris, parce que là, il y a l'insécurité, il y a lié de réviser le fichier. Je pense que même la CEDEAO, c'est vrai que si les actions concrètes sont posées, d'ici à 9 mois, naturellement, elle pourrait être beaucoup plus compréhensive. En fait.
Merci à mes invités, docteur Ali Tunkara, sociologue, Madame Mariko Korotumutera, socio-économiste et également présidente de l'ONG FEDEV, Femmes et Développement. Je suis Mariam Maïga. À la régie vidéo, il y avait Gagné Kanté. Au son, il y avait Mamadi Keita. C'est la fin de cette émission consacrée à la satisfaction de la délégation de la CEDEAO après sa visite de 2 jours au Mali. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmoni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.